France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Un patrimoine radiophonique.
S'il y eut une comédienne, plus qu'aucune autre, pour laquelle le costume compta, à la ville comme à la scène, ce fut certainement Cécile Sorel. Il semblerait même qu'en la matière, la mythique Célimène du Misanthrope n'ait pas toujours fait dans la demi-mesure. Après plus de 30 ans de comédie française, la revue Vive Paris au Casino de Paris lui offrit l'occasion de satisfaire librement ce penchant pour les tenues, les accessoires les plus fastueux, et aussi de lâcher à Mistinguette son fameux « l'ai-je bien descendu ». En 1949, ayant quitté la scène depuis quelque temps déjà, Cécile Sorel donnait à la RTF une série de 6 entretiens en forme de confession. Dans le 4e, elle s'expliquait sur son amour pour le beau costume et les spectacles flamboyants. Mémoire à plusieurs voix, Cécile Sorel, confession d'une comédienne, 4e entretien d'une série de 6, diffusé pour la première fois en 1950 sur la chaîne nationale.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Dans le cadre de la Tribune de Paris, vous entendrez ce soir, comme tous les mercredis, notre émission « Mémoire à plusieurs voix ».
Cécile Sorel va poursuivre à notre micro ses confessions d'une comédienne. L'illustre actrice, au cours de 3 premiers entretiens, a raconté ses souvenirs du théâtre du boulevard, où elle débuta, de la comédie française, où elle joua plus de 30 ans, et des grandes tournées qui étendirent et affirmèrent partout dans le monde le prestige de la France.
Cécile Sorel va nous parler aujourd'hui du théâtre en tant que spectacle. Pour elle, en effet, le texte dramatique appelle, avec l'interprétation, une science du port, du geste, du rythme, des décors, des costumes, des éclairages qui soulignent le jeu des comédiens et qui le magnifient. Cécile Sorel est elle-même l'incarnation de ce style. Son élégance et son panache sont inséparables de son art.
Cécile Sorel est entourée aujourd'hui du peintre Paul Colin et du compositeur Louis Betz. Paul Colin et Louis Betz, rappelons-le, ont créé des décors et des musiques de scène destinées à Cécile Sorel.
Paul Guimard va ouvrir l'entretien.
Eh bien, au cours de nos précédentes conversations, nous avons bien entendu parlé théâtre, de quoi d'autre aurions-nous parlé? Mais nous n'avons pas parlé uniquement du jeu de la comédienne ou du comédien. Parlant théâtre, nous en sommes arrivés très souvent à parler du costume, du décor, de l'accessoire, et plus particulièrement du costume dont Cécile Sorel a fait presque une institution nationale. Aussi, nous voudrions lui demander, au seuil de la conversation de ce soir, que représentait le costume pour vous, comédienne?
Mais pour moi, grande coquette, mais c'était tout mon état d'être, de vivre et de représenter. Je représentais les grandes pécheresses de la comédie française. Louis XIV, toutes les époques, Louis XV, même moderne. Alors j'ai dû naturellement exprimer la somptuosité de chaque époque et celle de nos jours. J'étais la victime, l'esclave des pécheresses. Et elles m'ont quelquefois un peu gâtée.
Mais on vous a même quelquefois reproché, Cécile Sorel, d'apporter dans vos rôles un peu trop de pompe, de panache, de faste.
Mais oui, mais c'était nécessaire. Mais Antoine n'était pas content avec moi. Il disait, oh, celle-là, c'est une comédienne pour les riches. Et il faisait jouer Suzanne Després, qui avait beaucoup de talent, mais qui jouait les bonnes. Et pour lui, c'était elle qui avait raison.
Eh bien, entre la conception du théâtre qu'avait Antoine et la conception du théâtre que vous avez, vous, Cécile Sorel, il existe peut-être des opinions intermédiaires, et c'est ce que nous allons tâcher de savoir. Paul Colin.
Eh bien, je crois qu'en effet, on ne peut pas se contenter de réalisme au théâtre. Et Madame Cécile Sorel nous a donné le goût du somptueux, ce qui n'est pas méprisable, n'est-ce pas? Nous avons eu, dans ce sens-là, et j'éprouve le besoin d'en parler tout de suite, l'influence des ballets russes, par exemple, n'est-ce pas, qui ont étalé du somptueux. Quelle a été l'influence des ballets russes sur la peinture? Je crois qu'elle a été absolument inopérante. Ce sont les peintres qui ont apporté leur talent et, dans certains cas, leur génie aux ballets russes. Les ballets russes ont une influence, c'est certain, mais une influence peut-être de snobisme, une influence vers le goût du théâtre, vers le goût de la couleur. Mais l'influence des ballets russes sur notre art français en particulier, je suis prêt presque à le nier.
Vous ne pensez pas, Paul Collin, que le théâtre est de prolongement dans d'autres arts, mais qu'au contraire, il reçoit d'autres arts ce qui lui est nécessaire?
Je crois simplement que le théâtre permet d'étaler derrière la rampe des créations picturales que nous sommes, nous, habitués à voir dans les ateliers et dans les salons. Ça permet à un certain public qui ne fréquente que le théâtre de voir ce qui se passe dans les milieux de la peinture, tout simplement.
Et on a beaucoup prôné pendant un certain temps, on continue d'ailleurs, certaines écoles continuent, le théâtre, disons, en complet veston. Cécile Sorel, que vous apportait le costume en tant que comédienne pour votre jeu, pour l'expression de vos rôles?
Mais il m'aidait beaucoup. Avant de jouer Célimène, j'avais un trac épouvantable dans ma loge. Mais chez moi, même le matin, je commençais à être travaillée, troublée, mon cœur battait. Je mettais mon costume dans ma loge, ma perruque. Eh bien, je n'étais plus Cécile Sorel, j'étais une dame de Louis XIV et le trac s'en allait. Je n'étais plus responsable de ce qui allait se passer. Je m'identifiais à mon personnage. J'avais raison et je gagnais la bataille. Donc le costume est nécessaire.
Comme quoi, il y a tout de même une influence du peintre sur le théâtre et sur la comédienne.
C'est bien entendu Paul Collin qui vient de nous donner cette opinion. Louis Betz.
La part de la musique est malheureusement, surtout dans le genre de théâtre sublime, profond, délicat dont on vient de vous parler, où la perfection des mots, où l'acuité de la psychologie tiennent la première place, le rôle de la musique, malheureusement, est ici à peu près nul, puisque même lorsque Molière a eu recours à la musique, c'était plutôt pour ce qu'il appelait lui-même d'ailleurs des comédies-ballets.
Oui.
La musique intervenait pour la partie chorégraphique, mais se gardait bien de souligner quoi que ce soit dans le dialogue ou dans les événements. Maintenant, ensuite, plus exactement, on a introduit la musique dans la comédie elle-même. On a écrit des musiques de scène. Mendelssohn a écrit une musique de scène pour Le songe d'une nuit d'été. Bizet a écrit, je crois, son plus grand chef-d'œuvre, mais en même temps des plus grands chefs-d'œuvre français, c'est la partition de l'Arlésienne. Et la musique s'est donc introduite dans les œuvres dramatiques. Elle s'y est introduite en soulignant certaines situations, mais elle a eu également la possibilité, dans ces œuvres-là, de s'exprimer seule, sous la forme de préludes, d'interludes, où la symphonie pouvait se donner libre cours. Maintenant, il n'en est plus malheureusement de même, car les moyens matériels font défaut à la plupart des directeurs de spectacle pour utiliser les orchestres nombreux qui seraient nécessaires pour interpréter de telles partitions. Et maintenant, la musique, heureusement, il faut s'en réjouir, la musique intervient au titre de musique de scène, dit-on, mais enfin plutôt de musique, comment dirais-je, de musique soulignant peut-être même plus les mouvements que les événements, que les réactions psychologiques, et la musique intervient dans beaucoup de pièces. Évidemment, le plus souvent, c'est une musique qui est enregistrée, qu'on ne peut entendre que dans des conditions assez défavorables, mais enfin, c'est tout de même de la musique, et un musicien doit se réjouir chaque fois que la musique a la possibilité de se faire entendre. Si cette musique est mauvaise, eh bien, admettons qu'on n'y fasse pas attention, si elle est bonne, souhaitons qu'elle influence le spectateur qui est venu entendre une comédie sans aucune arrière-pensée musicale, qu'elle l'influence comme, par exemple, le beau temps peut influencer l'humeur des gens qui sortent dans la rue le matin.
Mais voulez-vous me permettre une question, Louis Betz? Vous avez cité tout à l'heure l'Arlésienne. Si nous prenions l'exemple de Grieg, est-ce que vous estimez, par exemple, que Grieg a écrit une musique de scène destinée à Ibsen ou une œuvre musicale originale qu'on peut parfaitement détacher du contexte?
On peut parfaitement détacher l'Arlésienne, c'est-à-dire que dans une œuvre comme l'Arlésienne, on peut détacher pour la faire entendre au concert symphonique, sur l'estrade, une suite d'orchestre composée de 4, 5, 6 numéros.
Alors maintenant, voulez-vous que nous revenions un peu au costume pour poser à Cécile Sorel la question suivante. On a beaucoup dit que vos costumes, c'était vous-même, que vous les choisissiez, que vous étiez en somme votre propre décorateur. Qu'est-ce qui vous inspirait pour choisir un costume de scène?
J'ai été regarder tous les musées du monde et j'ai pris un peu partout les richesses que je vous apportais à Paris, pour ceux qui ne voyagent pas. Et je crois que ce mélange des Louis XV, des Louis XIV que j'ai trouvé en Italie, en France, eh bien, ont beaucoup aidé à renouveler la formule du costume qui, au théâtre français, était toujours le même qu'on reproduisait. On disait Louis XIV, voilà le modèle, voulez-vous le copier? Le Louis XV, le voilà. Eh bien, je n'ai pas voulu de ces modèles qui étaient épuisés depuis des années. J'ai rénové le style jusqu'à notre époque en ajoutant un petit détail moderne qui les rendait plus spirituels, plus vivants, plus près de nous, tout en étant de grand style. Si j'ai un mérite, c'est simplement celui-là.
Mais tout de même, en vous attachant d'abord à la vérité historique.
Naturellement, une vérité avec de l'universalité, n'est-ce pas, une liberté plus large, plus audacieuse, voilà.
Eh bien, voulez-vous que nous demandions à Paul Colin ce qu'il en pense?
Oui, je crois que c'est là justement la nouveauté, c'est d'amplifier, c'est d'insister sur le caractère d'une époque, n'est-ce pas, dépouiller des détails et augmenter l'effet de la construction décorative. C'est ce qui permet aux peintres modernes de transposer les époques anciennes, car enfin, nous ne devrions que nous en remettre aux documents authentiques. Voilà où est la vérité. Et si des peintres de talent font, comme Cécile Sorel l'a fait, d'un document authentique une image renouvelée, c'est par cette gymnastique augmenter le caractère, appuyer sur le caractère, dépouiller de tout ce qui est inutile, de toute l'anecdote encombrante, et laisser ce qui est apparent dans la Renaissance, par exemple, n'est-ce pas, où il y a des effets fulgurants, et on fuit le détail et on appuie sur les notes, sur les valeurs, sur les valeurs sonores du costume. Voilà ce que vous avez aidé à apporter, et ce que je regrette de ne pas voir au musical, par exemple, n'est-ce pas, où presque toujours on continue ou à faire de l'authentique, c'est-à-dire des tableaux d'époque, qui sont des tableaux historiques, ou alors des tableaux qui sont presque, parce qu'ils sont presque toujours de 1925, ce en quoi je les place déjà dans l'histoire. Et alors qu'au musical, on aurait la liberté, n'est-ce pas, de création, où tout est permis, où le public va pour trouver du nouveau, il faut bien regretter, il faut bien constater qu'il n'apporte pas grand-chose actuellement.
Je suppose que le même problème se pose pour la musique, étant donné qu'il y a tout de même un certain style général à respecter, mais d'autre part, des sentiments particuliers à chaque pièce à exprimer.
C'est évident, et par exemple, vous parliez de musique de style, eh bien, écoutez la partition que Richard Strauss a écrite pour Le Bourgeois Gentilhomme, c'est une partition qui respecte l'esprit d'une époque, qui respecte même les proportions, sinon les dimensions des œuvres d'une époque, mais à laquelle le progrès du vocabulaire, de l'instrumentation, ajoute tout son piment et toute sa nouveauté.
Maintenant, nous en arrivons à une autre question. Il fut un temps où régnait véritablement au théâtre ce qu'on appelait le monstre sacré, enfin l'acteur roi. Tout était fait en fonction de l'acteur, du grand comédien et uniquement de lui. Il s'est produit une certaine évolution. Maintenant, le monstre sacré est devenu soit le metteur en scène, soit tout autre. Mais enfin, il y a effectivement une évolution. Comment la jugez-vous, Cécile Sorel?
Moi, j'ai peu vu de spectacle depuis quelque temps. Il y a 3 ans que je suis en retraite, en méditation à Biarritz, et je n'ai pas encore vu les spectacles de Paris. Mais j'aime le spectacle. Et je sais que vous avez de grands metteurs en scène, que vous avez fait des spectacles splendides, et j'en félicite Paris. Parce que tout l'étranger est émerveillé de voir les talents que vous avez aujourd'hui.
Maintenant, ne pensez-vous pas que cette discipline, parfois très rude, enfin très stricte, qu'imposent certains metteurs en scène à des comédiens, est nature à leur rogner les ailes, à empêcher leur épanouissement.
On ne peut pas rogner les ailes un oiseau qui devient un aigle. Impossible. On porte en soi son destin et ceux qui doivent devenir des génies le montreront. Je les attends. Ils sont là.
Paul Colin.
Évidemment, il y a le monstre du théâtre. Et nous avons à en souffrir quelquefois, nous autres peintres de théâtre, n'est-ce pas, par les exigences du metteur en scène qui a pris une place prépondérante. Je suis très mal placé pour donner mon avis. Et je ne suis pas comédien, mais je crois tout de même qu'un spectacle est un ensemble de collaborations au même titre, n'est-ce pas, où chacun doit apporter quelque chose. Faut-il un chef d'orchestre aussi dominateur
Mais ne pensez-vous pas tout de même que dans bien des cas, et pour supprimer l'acteur roi dont on ne voulait plus, oui. On ne voulait plus qu'il n'y ait que cela au théâtre, oui. On a fait un metteur en scène quelquefois un peu indiscret, un décorateur quelquefois un peu indiscret. La pièce a très souvent été reléguée, je ne veux pas dire au second plan, mais enfin... Presque.
Oui, d'accord, le metteur en scène influence et le comédien et le décorateur et bien souvent le musicien, n'est-ce pas? Est-ce que c'est au bénéfice du spectacle en général? Dans des cas, je le crois.
Moi,
dans d'autres,
crois,
je crois
si.
Que
oui.
Ça dépend de l'esprit, du talent, du génie du metteur en scène. Ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui établir une règle générale ni une critique.
Non, enfin, voilà, tout de même, une unanimité parfaite.
Mais Bati a fait des choses admirables. Je crois que c'est le premier qui vraiment a eu des audaces splendides. C'est un grand génie.
Ce que je craindrais dans ce cas-là, c'est une espèce de monotonie dans la technique, n'est-ce pas? Vous venez d'évoquer un nom célèbre au théâtre. Eh bien, il est certain qu'on ne joue pas d'une scène de théâtre comme on joue d'une palette, n'est-ce pas? Sur une palette, nous pouvons nous renouveler de 10 ans en 10 ans. Nous n'avons qu'à suivre l'évolution des peintres. Est-ce qu'on peut le faire au théâtre aussi facilement? Est-ce que cette évolution de 10 ans sur nos palettes ne dure pas 20 ou 30 ans?
Oui.
Et pendant ces 20 ou 30 ans, c'est la monotonie et ça devient la...
Et puis, si vous voulez me permettre, je voudrais poser une question à Mme Cécile Sorel. Croyez-vous que Mounet Sully, par exemple, aurait supporté très longtemps Gaston Bati?
Oui, parce qu'il apportait, il vous enrichissait. Il a vraiment eu des idées formidables dans Marie Histoire de Marcel Moret. La disparition de cet homme, lorsqu'il monte cet escalier qui se confond tout d'un coup avec l'infini, mais ça dépasse les mots. Et comme la musique de Beth se dépasse la pensée. Quand la pensée s'arrête, la musique commence. Eh bien, c'est le musicien qui a raison.
Qu'est-ce qui vous dit que Mounet Sully n'aurait pas influencé Bati?
C'est oui. Aussi très possible,
mais
d'ailleurs.
Mais oui, mais c'était des génies qui se rencontraient.
Et voilà, oui. je crois que c'est là que... quel point faible, c'est que j'ai beaucoup d'admiration pour les grands comédiens de notre époque, mais je crois qu'ils n'influencent pas assez le metteur en scène, n'est-ce pas? Ils se laissent conduire.
C'est ça, ils acceptent qu'on leur dise ne dépassez pas tel trait de craie par terre. Voilà.
Comme le cinéma.
Mais en tout état de cause, peut-on dire actuellement où vont décors, costumes et musique au théâtre? Paul Colin.
Eh bien, tout à l'heure, je disais, n'est-ce pas, que les ballets russes n'avait pas eu une grande influence sur la peinture. Il a tout de même apporté quelque chose de bienfaisant au théâtre, c'est qu'il a donné l'habitude aux auteurs, aux directeurs, de s'adresser à des peintres de chevalet, et non plus à des spécialistes, comme avant les ballets russes. Avant les ballets russes, les spécialistes faisaient des décors doux, habitudes et manies, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on choisit son peintre qui crée vraiment un climat, et comme nous avons beaucoup de talent, nous pouvons espérer beaucoup de très belles choses au théâtre.
Louis Betz.
Vous savez, la musique, malheureusement, n'a pas un rôle aussi important, surtout dans un art synthétique comme le théâtre dramatique, puisque nous ne parlons pas ici, par exemple, du théâtre lyrique, où elle est en principe reine, n'est-ce pas? Et je crois qu'avec une histoire, je vous donnerai mon sentiment. On raconte qu'un jour, un évêque visitait un séminaire et interrogeait les jeunes prêtres sur la vertu qu'ils se croyaient les plus enclins, enfin, les plus destinés à pratiquer. Et l'un d'eux répondit simplement ceci, en fait d'humilité, je ne crains personne. Eh bien, c'est un peu la situation du musicien, dont la situation est extrêmement modeste dans le théâtre dramatique, mais qui se réjouit tout de même de l'y occuper, puisqu'il y marque la place de son art préféré.
Eh bien, nous allons bien entendu laisser le mot de la fin à Cécile Sorel.
Eh bien, je trouve que les ballets russes, au contraire, nous ont apporté un courage dans la couleur, un élan Je sais qu'à cette époque-là, eh bien, tous nos costumes de la Comédie française nous ont paru fades et quelconques. Et tout d'un coup, nous avons mis des panaches, nous avons mis des paniers plus larges, nous avons mis des couleurs éblouissantes, et le costume devenait vraiment le sommet spectaculaire de la Comédie française.
Accompagnée ce soir de Paul Colin et de Louis Betz, Cécile Sorel a poursuivi ses confessions d'une comédienne en expliquant au cours de ce quatrième entretien sa conception personnelle du théâtre.
Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission de journal parlé de la radiodiffusion française.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere can you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are low. Even with a turkey that you know will fold, you may be stranded out in the cold. Still you wouldn't change it for a sack of gold. Let's go on with the show.
De Cécile Sorel, vous venez d'entendre le quatrième entretien d'une série de 6, diffusé pour la première fois le 15 février 1950 sur la chaîne nationale. À suivre.